France Inter.
Le bonheur est cet inconnu qui arrive comme une bourrasque sur la rive. Il désordonne le monde plus que ne saurait le faire une tempête. Il soulève les charrettes, les hangars. Invisible, il abat les arbres. Les coques des bateaux volent dans le ciel. Il faut avoir du courage quand le bonheur est là. C'est tellement rare, accueillir le bonheur. Pascal Quignard est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « L'amour, la mer ». Et comme chaque soir, nous commençons en musique et ce sera Jacques Brel.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cordage, mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Si je vous dis le mot nuit, il vous évoque quoi ce mot-là, Pascal Quignard ?
Une protection de toujours. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent la nuit malheureuse, qui trouvent la nuit angoissante. Moi, cela m'a toujours protégé, peut-être parce que ça annule les formes, que l'on peut s'y cacher, que l'on peut... Je sais que lorsque j'étais tout petit enfant, pour pouvoir me... anorexique, pour pouvoir manger, j'avais exigé de mes parents d'être mis dans une pièce complètement noire pour ne pas voir la nourriture, sans doute. Enfin, je n'en sais pas les motifs, vraiment. Mais toujours est-il que le caractère intangible et informe de la nuit... Nous venons de la nuit aussi, nous sommes nés dans... Nous sommes conçus, du moins, dans le ventre d'une mère qui est obscure. Et peut-être qu'il y a quelque chose là d'informe et de rassurant qui me rassure toujours. J'ai fait aussi des spectacles de ténèbres, parce que j'y étais très heureux.
La nuit d'avant la nuit. Il y a eu une nuit noire, celle où nous étions dans le ventre de nos mères. Mais vous avez une théorie sur l'avant de cette nuit-là.
Il y a aussi la nuit elle-même cosmique, qui est une nuit qui est, comment dire... C'est très curieux parce que ce que dans la mythologie des physiciens de nos jours, je dis mythologie parce que je ne suis pas scientifique, je ne peux pas. Lorsqu'arrive le Big Bang, lorsqu'arrive l'origine, la lumière est très tardive, elle vient des millénaires après cette implosion étrange et sourde qui n'est à l'époque que sonore. Un peu comme nos existences à nous, vous et moi et tout le monde, qui commençons par une audition, sans vision, sans et dans une sorte de pénombre, et nous retrouvons, comment dire, le monde à partir du sonore et de la voix, transformé dans la lumière qui ne vient qu'après. Il en va de même du temps et du cosmos.
Big Bang cosmique, mais Big Bang sexuel. Vous avez écrit un ouvrage il y a une vingtaine d'années qui s'intitulait « La nuit sexuelle ».
Oui. C'est une autre obscurité, là. C'est que notre corps, chaque corps, vient d'un instant où il n'est pas. Nous ne sommes pas à notre origine. Deux corps, nos parents, se sont rencontrés dans une scène que nous ne pouvons que requérir imaginairement, mais que nous ne pourrons jamais, comment dire, voir. Il y a là une obscurité, en effet, à notre source, qui est aussi peut-être une bénédiction, une sorte de miracle qui fait que notre existence ne sera jamais sûre d'elle-même. Quelque chose manque, quelque chose est perdu en nous, et que elle est perdue pour les oiseaux aussi, pour les poissons aussi. Regardez ces
et pour les chats aussi.
Et les chats, et tout le monde retourne à la frayère, tout le monde retourne au nid. Il y a un mouvement de retour, comme Ulysse pour Ithaque, il y a un mouvement de retour dans nos vies. Est-ce qu'il faut le suivre, ce mouvement de retour ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il existe. Sa prégnance existe.
En tout cas, dans la littérature que vous connaissez depuis l'enfance, Pascal Quignard, celle des Grecs et des Latins, ces cycles de retour étaient omniprésents dans la conscience des hommes, dans la méditation sur l'existence. Notamment les fameux fragments d'Héraclite sur ce fleuve où on ne se rebaignera jamais. Pourquoi ce temps-là nous a-t-il été ôté au fur et à mesure de notre modernité ?
Il nous a été ôté par le progrès, par tout un sens de l'histoire, par le christianisme aussi, qui a projeté le passé dans l'avenir en créant une espèce de paradis imaginaire plutôt qu'une sorte de paradis antérieur. Là, il y a eu un mouvement. Mais vous n'êtes pas tout à fait juste, parce qu'il y a un grand génie qui s'appelle Freud, et qui, précisément, a montré, a prouvé que dans nos vies, la pulsion n'est pas orientée, et qu'on ne peut pas dire qu'elle va vers l'avenir, et que le plus sauvage en nous, le plus désirant en nous, veut aussi bien le passé que l'avenir, que le n'importe quoi, que le désordre. Et c'est cette vague-là, cette marée-là, qui a construit d'ailleurs, à mon avis, le plus beau livre de la psychanalyse, qui est celui de Ferenczi Thalassa, Le sentiment océanique. Freud aimait peu, mais Ferenczi adorait.
Alors Thalassa, c'est le sentiment océanique. Freud a inventé la science des rêves. et de ces rêves, vous tissez une sorte de méditation sur la compréhension ou l'élucidation peut-être de nous-mêmes. Faut-il la nuit pour rêver ? Êtes-vous aussi un rêveur de jour ?
Peut-être. Peut-être que je ferai une différence entre l'essai et le roman, aussi simple que celle entre, comment dire, la pensée et la rêver. La rêver, nous la partageons avec les animaux, avec les chats qui rêvent énormément, mais aussi, comment dire, avec les oiseaux, avec qui rêvent énormément. On voit leur corps et leur fourrure, comment dire, se tressaillir, et les mouvements de prédation se faire comme ça alors qu'ils dorment. Et nous partageons avec eux cette vie du désir, de la faim, de la soif, du besoin qui nous poursuit, de la prédation aussi, de la conquête, puisque, pour reprendre le terme qui est dans cette chanson de Jacques Brel qu'on vient d'entendre, que je trouve un peu dur, je ne pense pas que l'amour soit conquête, mais c'est pas, peu importe, la chanson est très belle.
L'amour est quoi alors ?
Oh, je pense qu'il est plus contemplatif que conquérant, pour ce qui me concerne, pour ce qui est la vision que j'en ai. Je ne pense pas que du tout, même je ne pense pas du tout que la possession appartienne à l'amour. Je ne le crois pas, ni d'un côté ni de l'autre, si j'ose dire. Ça ne paraît pas le mouvement profond de ce qui s'arrête soudain sur la différence elle-même de l'autre.
L'amour est-il un rêve, par essence inaccompli ?
En tout cas, les rêves indiquent qui on aime, ça c'est sûr. C'est même, comment dire, c'est ce qui est resté du monde le plus ancien. Ce sont vraiment des présages. Les rêves vous assurent de ce que sont vos vrais désirs. Il faut toujours laisser passer, avant n'importe quelle décision, faut toujours laisser passer une nuit. La nuit vous dit ce que vous désirez ou ce qui vous répugne, très nettement, très franchement.
Dans votre dernier livre, « L'amour, la mer », les femmes sont puissantes. Intellectuellement, artistiquement et aussi sexuellement. Elles savent qui elles veulent, quand elles le veulent et pourquoi elles le veulent.
Vous êtes sûr qu'elles savent pourquoi elles le veulent ? Je suis d'accord sur les deux autres choses. Sur le pourquoi, je pense que les femmes comme les hommes sont peut-être plus dans l'incompréhensible quand même. Mais elles veulent, elles savent, elles sont puissantes intellectuellement, ça oui, ça oui. Elles ont même peut-être une puissance... Mais il ne faut pas caractériser les femmes, les hommes, j'en sais rien finalement, pardonnez-moi, je ne suis...
Non mais je ne caractérise suis... pas, je lis votre livre,
oui, oui.
Et j'en déduis que les personnages de femmes qui tissent exactement comme dans une tapisserie du Moyen-Âge des sortes de thématiques du désir, elles sont beaucoup plus sur le devant de la scène du monde que les hommes qui suivent. Et elles appartiennent pourtant à des temps immémoriaux, ces femmes-là.
Oui.
Je ne sais pas d'où elles viennent, d'ailleurs, vos femmes. Est-ce qu'elles viennent de l'observation de tableaux de Nicolas Poussin ou de Chardin ? Est-ce qu'elles viennent de stations répétées dans des musées du nord de l'Europe à regarder des maîtres hollandais
Elles viennent aussi de tous les musiciennes, les compositrices que j'ai rencontrées, les artistes que j'ai rencontrés. Il est clair que les amis que j'ai eus, que Dominique Horry, ou que, je ne sais pas, ou que Marguerite Duras, ou que ce ne sont pas Colette. Les femmes sont très... Il y a des femmes très puissantes et très magnifiques dans notre... Mais il y a aussi dans la mythologie. Dans la mythologie, il n'y a rien de plus beau qu'Antigone, il n'y a rien de plus beau que Médée, il n'y a rien de plus beau que Marie, très mystérieuse. De plus en plus, Marie me paraît mystérieuse. Ce qui me paraît mystérieux, c'est le fait qu'une mère puisse, comment dire, lorsque son fils ressuscite Jésus, elle s'en fiche. Elle ne le voit même plus.
Vous en parlez dans le livre.
Oui, parce que ça m'a vraiment frappé. De plus en plus, ça me frappe. Elle est partie pendant 18 ans, 21 ans. Ça dépend des pères de l'Église. Elle s'en va à Éphèse, auprès du compagnon adoré de Jésus, qui est Saint Jean, qui a écrit le plus bel évangile qui soit. Et je ne suis pas pieux, mais je trouve très étrange la vie d'après de cette femme très puissante aussi, qui est Marie.
Vous n'êtes pas croyant, Pascal Quignard, mais vous croyez en la littérature et vous croyez à la force des substrats symboliques et artistiques qui nous sont donnés depuis l'aube de l'humanité, notamment par ces textes très anciens que vous savez décrypter, et dans lesquels, si j'ose employer ce mot, vous baignez.
Ah, j'aime bien que vous disiez ça comme une sorte de baptême. Oui, j'ai eu besoin de l'archaïque pour pouvoir. Je ne pense pas. Mais là, c'est. Je ne pense pas que l'on puisse. C'est la même chose pour les rêves qui ne connaissent pas le temps. Je pense que le profond de la vie, que le profond de la passion ne connaît pas le temps. Et que dans ce cas-là, le plus archaïque, le plus puissant, le plus sauvage est une valeur, aussi grande en tout cas, que le plus raffiné, que le plus sophistiqué. Il y a quelque chose dans le sauvage qui est même, pulsionnellement, plus urgent que le temps lui-même, que l'actuel lui-même.
Comment arrivez-vous à retrouver ce hors-temps, qui n'est pas simplement un hors du temps, mais qui est un mode d'accès à des choses symboliques, intérieures, qui sont tous à l'intérieur de chacun d'entre nous ? Chaque mot entraîne un autre, ou c'est la lecture des textes grecs et latins qui vous entraîne dans cette sorte d'hallucination consciente ?
Chaque mot entraîne un autre, comme ce que vous dites là est très juste. J'étais élevé par un grand-père qui était, grammairien, et donc dont l'étymologie était la passion, un peu comme elle a été la passion de Heidegger ou de certains philosophes ou de certains. Et de ce fait, chaque mot entraîne à son étymon, à sa vérité antérieure, et de mot en mot, on va jusqu'au silence, on va jusqu'à la sensation, on va jusqu'à la racine, de ce qui a pu être l'anthropomorphose, si je peux prendre un mot énorme comme ça. On va dans le monde antérieur qui est celui qui afflue. Mais il y a une, si vous voulez, de même que le chaman était rejeté de la société, il a fallu que, par chance, par bonheur, j'ai l'idée de rompre avec la vie sociale il y a plus d'une vingtaine d'années pour pouvoir peut-être accéder à une région un peu semblable à celle que ceux qui se séparaient du monde dans leur ascèse pouvaient obtenir au bord d'une rivière, en effet, puisque vous parliez d'Héraclite. Là, il s'agit de Lyon, en province de Bourgogne.
Donc, à la fois chaman, mais à la fois savant, connaissant la structure et l'origine peut-être des mots et de nos mots les plus anciens, je vous propose d'écouter la voix de Émile Benveniste. Il va parler de la langue, de ce que ça signifie. C'est une archive INA, France Culture, 13 mars 1967. Émile Benveniste.
La langue est elle-même formalisable. La langue consiste en un certain nombre d'unités qui se décomposent sans que la philosophie personnelle du chercheur y intervienne. La langue se comporte d'une telle façon qu'elle impose cette démarche. Et par conséquent, il y a une structure qu'il s'agit de rendre apparente, de décomposer entre ses parties. Il y a par conséquent une espèce de combinatoire qui est donné avec l'objet même de la recherche, et qui devient alors progressivement l'objet principal, l'objet majeur de l'investigation, voir comment cette combinaison d'éléments dégagés par des méthodes rigoureuses, et comment cette combinaison se différencie suivant quel modèle particulier, dans quelles limites, etc. Il y a ainsi un champ considérable de recherche. Dans tout cela, le linguiste obéit à la nature même de la matière qu'il étudie. Alors, la vertu éducative, c'est la valeur scientifique. Il s'agit de savoir si l'esprit scientifique doit, dans les autres sciences humaines, passer nécessairement par les mêmes stades et suivre les mêmes voies. C'est-à-dire si, dans les autres domaines des sciences de l'homme, on peut également ramener le réel à un certain nombre de données constantes, même si elles sont sommairement définies, dont on étudierait ensuite le jeu, l'interaction.
Faut-il comprendre les règles de la linguistique telles que l'a inventé Émile Benveniste, Pascal Quignard, pour pouvoir maîtriser et trouver, comme vous l'avez fait déjà depuis longtemps, votre propre langue ? Ou est-ce que la langue vous déborde ?
C'est très émouvant d'entendre Émile Benveniste, que j'ai connu tout enfant. C'est très émouvant.
Enfant, par votre grand-père ?
Ma grand-mère faisait un mardi ou un mercredi, il fallait que j'apporte les tuiles. J'avais 4-5 ans à des gens comme Gaston Bachelard ou Émile Benveniste.
Les tuiles, les petits gâteaux.
Les petits gâteaux,
pour
voilà.
L'été.
Ouais, pour l'été. Mais c'est
quelle
pas ça,
chance
c'est,
vous
c'est
avez
pas ça, c'est pas ça qui était... Non, je n'avais que de l'angoisse à l'époque, je n'avais aucune chance. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Pour prolonger ce que dit Émile Benveniste, d'une part... La voix qu'il indique, en effet, est la possibilité scientifique, par l'étude de la linguistique, d'apporter une sorte d'objectivation de la langue auprès du cerveau et de l'attention scientifique. Mais il y en a une autre, qu'il indique d'ailleurs juste avant de perdre la parole, le pauvre, comment dire, 2 ans après, au Collège de France. L'autre objectivation, c'est bien sûr l'écriture. Et l'écriture, ce qu'elle ramène, ça n'est pas une science. Elle ramène des images. Chaque graphique, chaque lettre, elle-même, a sa propre étymologie dans une image qui en est le précurseur. Et donc, vous avez deux voies d'accès, une qui est scientifique, une qui est imaginaire. Il va soit, lors que c'est la voie imaginaire que je suis, mais il y a deux possibilités de passer à l'objet du langage.
Mais chez vous, et ce depuis pas mal de temps, Pascal Quignard, il y a plusieurs registres de langue. Vous avez écrit des romans qui ont eu beaucoup de succès, qui étaient des romans de facture classique, Les Escaliers de Chambord, Tous les Matins du Monde et bien d'autres, Villa Amalia, beaucoup plus proche de nous, avec une narration des personnages, des possibilités d'identification pour nous lectrices et lecteurs. Et puis petit à petit, vous avez largué les amarres avec les registres de l'écriture et vous avez trouvé votre propre tempo. Et là, dans ce livre, ça fait déjà pas mal de temps, dans des essais divers, etc. Mais là, dans ce livre, il y a quelque chose de nouveau, je crois, dans votre écriture. C'est-à-dire qu'il y a collision, ou plutôt cohabitation, de plusieurs registres de langage. Vous avez trouvé... votre R, A-I-R-E, exactement comme un paysan qui va cultiver son champ, il a trouvé son territoire.
Peut-être.
Il peut planter plusieurs choses.
C'est beau ce que vous dites, peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce vrai. Il y a peut-être en vieillissant, parce que ça suppose du temps aussi pour y parvenir, pour trouver cette R que vous dites, il y a peut-être, comment dire, comme la chouette ou le hibou au-dessus de sa ruine qui pendant 7, 8, 9, 10 ans occupe le même territoire, quelques mètres cubes obscurs, nocturnes, entend tout à l'oreille, chassant à l'oreille, épousant les vents et rebondissant sur la terre à l'air de au point que même la proie ignore que va surgir au-dessus d'elle cette créature merveilleuse qui est une chouette. Il est possible qu'à un certain moment, on s'accorde avec l'air, avec le lieu, avec le temps, et qu'on arrive, peut-être, à posséder un peu son instrument, ou à devenir l'instrument lui-même. Ou à devenir l'instrument lui-même, plutôt.
Alors, devenir l'instrument lui-même, c'est-à-dire devenir écriture. Vous êtes devenu écriture, Pascal Quignard, parce qu'à l'intérieur de ce texte magistral, sur l'amour, la mère, la sexualité, le bonheur, je l'ai lu très rapidement au début de cette émission, eh bien, il y a aussi de très courts fragments autobiographiques qui sont sertis à l'intérieur de ce texte. Et dans un de ces fragments autobiographiques, vous dites, eh bien là, moi je suis, en ce moment même, face à mon ordinateur, avec mes doigts de plus en plus gourds, à essayer de taper sur cet ordinateur, et tout d'un coup me revient toute cette espèce d'arrière-mémoire. Vous êtes où dans le texte? Vous êtes un des accompagnateurs des fantômes que vous ressuscitez? Et vous les accompagnez, ces fantômes, ou vous maîtrisez, grâce à l'ordinateur, ce flux d'écriture?
Oui. Je comprends que vous puissiez, et c'est généreux de votre part de penser que je maîtrise, mais ça n'est plus le cas. Je suis en effet plus écriture qu'écrivain. Je suis devenu très impersonnel, je veux dire par là très imprégné par ce que je vis. C'est une façon de vivre.
Alors,
écrire pour moi, c'est une façon de vivre. C'est-à-dire que...
Il n'y a plus de jeu.
Non, il n'y a plus de jeu. Les sensations ont besoin, comment dire, d'être dites. Comme, la multiplication des sensoriels du monde et la merveille que c'est, peut-être parce que j'approche d'un instant où elles disparaîtront, où je mourrai, mais elles prennent une vivacité de plus en plus grande. J'approche de quelque chose qui est proche d'un écrivain que j'admire immensément, qui est Kawabata au Japon. Et Kawabata disait qu'il n'était plus que le dernier instant, que le dernier instant sublime où, en effet, comment dire, la sensation prime sur l'individu, la subjectivation s'efface. C'est pas très intéressant. La vie, en se prolongeant, effrite beaucoup tous les petits narcisses intérieurs qui ne comptent plus. Et de ce fait, dans ce cas-là, ce qui envahit, c'est le bonheur de l'impression elle-même, c'est la sensation elle-même. Je crois que c'est comme dans Homère, si vous voulez, les vieillards dans Homère, le principal d'entre eux, c'est Tantale. Tantale, le plus vieux des hommes, c'est celui qui reçoit, comment dire, la figue, la grappe de raisin. Et le vent empêche sans cesse que sa bouche les aborde, mais sans cesse, la grenade. Vous voyez, la sensation devient, et on devient sensation, on n'est plus que ce mouvement-là. Mais ça n'est pas un homme qui cherche à s'imposer une image de lui-même en écrivant un livre qui porterait son nom. C'est beaucoup plus accueillir sensoriellement le monde, je crois.
Vous aviez publié il y a très peu de temps un livre assez impressionnant qui s'intitule « La vie n'est pas une biographie ». C'est un titre qui sonne comme une sorte d'alarme et en même temps comme une sorte de drapeau philosophique. Comme si effectivement, pour écrire, il fallait se déshabituer et déshabiter soi-même, au plus profond de soi-même. Et devenir quoi alors? Une éponge, un passe-muraille, un invocateur d'esprit les plus anciens, un chaman?
Un chaman. Non, je ne pense pas tout ça. Au début, ce qui est clair, c'est que, comment dire, le soi, la subjectivité, c'est celle que nous suggèrent nos parents, qui nous ont rêvé, ils nous ont accueillis, ils ont dit, ah, tu ressembles à ton oncle, à ton grand-père. Et puis ensuite, les destins s'imposent à vous, qui sont des destins qui ne sont pas les vôtres, qui sont ceux que les vôtres ont pour vous. Vous les suivez un peu, vous en souffrez. Secret d'ailleurs des névroses terribles à l'égard de ces destins qui ne vous conviennent pas, dont on vous a habillé de façon trop volontaire, vous les quittez, vous devenez un peu vous-même, ou vous croyez devenir un peu vous-même. Et l'âge adulte a sa beauté aussi, comment dire, on imprime une sorte de héros, on devient un peu le héros d'une histoire qu'on croit être la nôtre. Et là, c'est un moment de conquête sociale, et puis... Là aussi, ça s'effrite, ça se défait complètement. Et arrive un moment où on se rend compte qu'il n'y a absolument pas besoin d'avoir une identité particulière. On est le héros de rien. On est simplement ce regard, comment dire, éprouver le plus possible le vivant, ça suffit amplement à la fin des jours.
Donc être dans le présent.
Pourquoi le présent, le passé est aussi envahi de ça?
Être dans la revisitation du passé.
Je retirerais le mot présent, je dirais l'actualité de l'être, voyez-vous. Pas être présent à ce qui est
mais
présent.
Mais quand on dit le mot actualité, on pense à actualité politique, actualité événementielle. On ne pense pas à actualité de l'être. Comment le définiriez-vous, cette actualité?
Eh bien, le commencement commence, le Big Bang se poursuit, l'actualité, c'est profondément être, comment dire, à la hauteur du monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui s'éploie comme une fleur. Il faut être, comment dire, dans cette actualité-là, complète, accomplissante du temps.
Là, vous faites référence à des théories philosophiques, comme par exemple Heidegger.
Ou plutôt plus bouddhique encore, à vrai dire, plus taoïste encore. Mais ce n'est pas, je ne sais pas la philosophie qui m'importe. Je veux dire, là vraiment, c'est un corps qui veut éprouver le maximum possible dans l'intensité des derniers instants qu'il peut vivre.
Mais vous avez accompli un chemin pour arriver vers cela.
Oui.
C'est austère.
Je ne sais pas, vous vous souvenez la fin de l'éthique de Spinoza, aussi difficile que rare. Mais c'est pas pour ça que c'est... Non, le mot difficile est excessif. C'est un peu audacieux, un peu périlleux, c'est tout.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Pascal Quignard, Les ombres errantes de Couperin, interprété par Blandine Verlet. Où est-on, Pascal Quignard, quand on entend cette interprétation magnifique de Blandine Verlet et qu'on entend ce couperin-là? On a l'impression de l'entendre respirer, d'ailleurs, Blandine Verlet. Où est-on et que se passe-t-il?
Vous avez vu qu'elle l'a pris un peu trop vite au début. Elle est contrainte de ralentir. François Couperin avait mis, sur la partition, languissamment. C'est-à-dire, c'est une sorte de langueur, de mélancolie. Ce sont les ombres aux enfers. Mais derrière l'ombre aux enfers, les ombres aux enfers qui marchent lentement dans le marécage et qui lèvent leurs pieds, qui errent comme ça dans la mort, il y a le fils de François Couperin qui est parti, qui s'en est allé, que Couperin n'a jamais revu de son vivant, qui est revenu, alors très mystérieusement, après sa mort, chez la veuve de Couperin qui vivait à Versailles. Il est venu, il est revenu, il a pris l'argenterie, il est parti. Il y a une sorte de détresse de l'ombre errante aussi de son fils qu'il n'arrive plus à rejoindre.
Dans L'amour, la mère, il y a beaucoup de musiciens. Il y a d'abord beaucoup de musiciennes et beaucoup de musiciens. Je suis assez ignare et je m'en excuse sur l'histoire classique de la musique. Et j'ai voulu vérifier sur Internet si vous aviez, bêtement, si vous aviez inventé les personnages que vous mettez en scène admirablement. J'en ai trouvé certains qui existent bel et bien et que vous nous faites connaître. Et puis il y en a d'autres que je n'ai pas trouvés. Ont-ils été engloutis par le temps ou les avez-vous inventés ?
Ah non, les deux grands amants de ce livre, Athènes et Tuline, je les ai inventés.
Eh ben Athènes, je ne l'ai pas trouvé. Hein.
Non, je l'ai inventé tout à fait. J'ai inventé tout à fait ces personnes. Mais je les ai mis dans, entourés, comment dire, par leur maître et leur carrière auprès de personnes qui est comme Froberger ou comme... Je les ai mariés, si vous voulez.
Lui, il existe, je l'ai trouvé.
Oui, oui. Sainte-Colombe, je l'ai fait revenir. Bah,
Sainte-Colombe,
aussi.
C'est les matins du monde. Là, vous nous rejouez les matins du monde.
Non, je ne le rejoue pas, je donne sa mort, dont je n'avais jamais parlé.
Magnifique mort.
J'accomplis un peu les destins, si vous voulez, de ceux que j'ai créés, mais je donne une
comment
espèce...
ça vous accomplissez, c'est-à-dire que vous créez des personnages, vous leur donnez une vie, et puis vous allez jusqu'au bout de cette vie.
Oui, mais c'est aussi parce que...
Et vous le remettez dans le brouillard des âmes errantes.
C'est aussi parce qu'ils réclament, vous savez, il y a des...
Ils vous parlent, vos personnages.
Oui, et tous les romanciers ont l'histoire complète des héros qu'ils inventent. Mais dans les livres qu'ils écrivent, ils n'en donnent que certains éléments. Et par moments, la fin de leur vie, des éléments réclament que l'on les évoque. Alors, dans ce cas-là, il faut accepter que ces personnages reviennent et qu'on termine un peu leur vie avec eux. Il y a quelque chose comme une sorte de devoir. C'est assez curieux. Vous savez, c'est comme dans les jardins...
Ça doit être obsédant. Inquiétant?
Non, c'est pas inquiétant, mais dans les jardins qu'on construit, c'est la même chose. Il y avait là des anémones. Ah, quand même, pourquoi il n'y a plus de... Et puis les petites hellebores d'hiver, il faut que j'en replante. Non, vous voyez ce que je veux dire, ce sont des constructions qui réclament. Les jardins, les romans, c'est très semblable.
Vous parlez un peu comme Marguerite Duras, parler de l'écriture, elle inventait des personnages, notamment des personnages féminins, et elle disait que ces personnages lui demandaient de l'aide, du secours, de la consolation, et quelquefois, ces personnages la convoquaient. Je vous propose d'écouter sa voix, elle va parler de ce que signifie pour elle l'écriture. C'était au micro de Marianne Alphand, c'était un bon plaisir sur France Culture en 84.
Je suis un écrivain. Rien d'autre qui vaille la peine d'être retenu. Être l'écrivain, ça veut rien dire. Quand on écrit, si vous voulez, on est cette absence permanente à l'autre qui dure pratiquement le temps que dure la vie, le temps que dure l'écriture. Je ne sais pas jusqu'à quel âge j'écrirai, mais je sais que depuis l'âge de 18 ans, oui. Je ne pense qu'à écrire. J'ai eu des accidents de parcours, des enfants, des hommes. Mais là où je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas si ces accidents ne sont pas eux-mêmes allés dans l'écrit. C'est un dédoublement, c'est comme... C'est l'équivalent d'un déplacement de soi. J'en parle mal. Je ne peux pas en parler bien. Parce que je pense à l'ambiguïté fondamentale de l'écrit. Qui se reporte sur l'écrivant, s'il vous plaît, qui doit être l'ambiguïté fondamentale d'écrire. C'est comme quoi cette personne qui est entière, qui voit et qui entend et qui parle, a besoin de ne plus parler, d'être aveugle, de se boucher les yeux, de se boucher les oreilles, pour retrouver ce qu'elle a vécu, pour en écrire.
En écrire. On vient d'entendre la voix de Marguerite Duras.
Oh, quelle belle voix. Toujours belle voix. Quel plaisir de la réentendre. Ce qu'elle dit est parfait. Je dirais quand même, sauf le mot dédoublement. Parce que ce qu'elle décrit, ce que je ressens beaucoup plus, c'est celle de destitution. On n'est plus rien. On n'est pas double,
mais elle
pas
prenait beaucoup d'alcool, hein.
Oui, non, mais oui. Ah, vous voulez dire qu'elle voyait double.
Non, mais elle écrivait en processus de dédoublement peut-être dû à l'alcool.
Mais ce qu'elle dit, qui me paraît plus profond, c'est
alors
le fait
que vous,
s'efface.
C'est pas votre cas, c'est le matin très tôt.
Oui.
Pas de petit whisky pour au réveil.
Non, alors pardonnez-moi, non, j'en suis pas capable. Non. Mais c'est le fait de s'effacer complètement, de devenir poreux, d'être l'autre. Ça, elle le décrit merveilleusement. Mais ce ne sont pas, comprenez-moi, je veux dire par là, nos personnages ne sont pas des doubles. Nous sommes simplement, de même, comment dire, que lorsque nous lisons, nous sommes le livre que nous lisons, de même que lorsque nous écoutons de la musique, nous sommes l'émotion de Chopin qui lance son prélude et sa douleur et son souvenir de Pologne, de même, comment dire, que le psychanalyste n'est plus lui-même, mais l'âme en peine de celui qui l'écoute. Voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes pas dédoublés, nous sommes absents. Nous sommes destitués. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très agréable aussi.
Dans ce nouveau livre, Pascal Quignard, il y a des personnages, il y a des visages, il y a des paysages, il y a des définitions de la beauté du monde sous toutes ses acceptions. Et puis, il y a des phrases qui ressemblent à des méditations philosophiques et qui sont tellement profondes que quelquefois on a envie de les relire et de les apprendre par cœur. On a commencé avec le bonheur, je voudrais parler de l'amour, et je vais vous citer. « Tout homme, toute femme qui met un objet à l'amour n'aime pas. Tout être humain ou animal qui fixe un but à l'amour n'aime pas. Qui impose un contenu n'aime pas. Qui rêve un foyer, une maison, un enfant, de l'or, une récompense n'aime pas. Qui court après la réputation, l'ascendant social, la voiture, l'honneur, n'aime pas. Qui vise le champion du tournoi, l'intégrité religieuse, la propreté, la délicatesse de la nourriture, l'ordre du lieu, le soin du jardin, n'aime pas. Celui qui prétend s'introduire dans un groupe auquel il n'appartient pas, ne serait-ce qu'atteindre les objectifs les plus sûrs, la mère dans l'homme, le grand-père maternel dans la femme, n'aime pas. Qui est celui qui aime ?
Ah, écoutez, c'est très simple. L'amour, c'est pour moi, Emmanuel Lévinas pensait la même chose. C'est le deux. C'est le deux à l'état pur. Il ne peut pas y avoir de tiers dans l'amour. Si on aime quelqu'un, on n'est que deux. Aucun tiers n'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affection pour l'enfant, de plaisir pour la nourriture ou pour le jardin. Mais lorsque on aime, on est deux, c'est tout.
Et ça suffit comme ça.
Absolument.
Mais figurez-vous, on parlait de registres philosophiques depuis le début de cette émission à l'intérieur de votre nouvel ouvrage. Vous venez de citer Emmanuel Lévinas, dont on sent, entre guillemets, la basse continue, je parle devant un musicien, tout au long de ce livre qui s'intitule « L'amour, la mer », je vous propose d'écouter la voix d'Emmanuel Lévinas.
La solitude était le thème très existentialiste. À l'époque, l'existence était surtout le désespoir, la solitude, l'angoisse, l'isolement par l'angoisse, dans l'angoisse. C'était le thème répandu déjà. Et dans ce livre, il y a une tentative de sortir de la solitude. Et la première sortie étudiée est une sortie vers le monde, dans la connaissance, dans le savoir. Et mon effort consistait à montrer que le savoir est en réalité une immanence et qu'il n'y a pas de rupture de l'isolement de l'être dans le savoir. Que dans la communication du savoir, on se trouve à côté d'autrui, on ne se trouve pas directement en rapport avec autrui. Et le rapport direct avec autrui n'est pas non plus la thématisation d'autrui et la considération d'autrui comme si c'était un objet connu. Il s'agit de savoir si le fait d'être n'est pas ce qu'il y a de plus privé. L'existence, c'est la seule chose que je ne peux pas communiquer. Je peux la raconter, mais je ne peux pas partager mon existence. La solitude apparaît ici comme l'isolement contenu dans l'événement même d'être.
Vous avez suivi les séminaires d'Emmanuel Lévinas, Pascal Quignard, et vous avez dû intégrer dans votre subconscient ou dans votre semi-conscient des éléments de réflexion de cette solitude à laquelle vous vous êtes dévoué depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Est-ce que cette solitude est une condition pour pouvoir arriver à écrire ces espèces de récits qui sont teintés de poésie, mais aussi de presque de manuel de vivre, comme le faisaient Sénèque, Épictète, des gens comme ça, c'est-à-dire d'impersonnalisation de votre propre existence pour nous indiquer une voie d'exister, comme vient de le dire Emmanuel Lévinas.
Je ne sais pas si c'est une condition, si la solitude est une condition, parce que...
C'est comme ça que vous faites.
Moi, c'est comme ça que je fais, mais parce que je suis d'origine, comment dire, très embarrassé par le groupe. Très, très, très embarrassé. J'ai été frappé de voir que la plupart des amis que j'avais ont créé des revues, des forêts, bien d'autres, tous les amis que j'avais, même Paul Celan, même d'autres. Et moi, j'ai jamais pu, les revues, j'ai jamais bien compris. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu une difficulté à ça. Il fallait que je me force pour être dans un groupe. Mais est-ce que c'est une condition? Non. Vous pouvez, comment dire, regarder Proust, c'est extrêmement mondain et mêler la solitude à la mondanité. Je ne sais pas comment vous répondre sur cette question-là, vraiment.
Mais je peux tenter une hypothèse. Il se trouve qu'il y a un livre qui vous est consacré et qui s'intitule « Une enfance havraise ». Vous avez passé votre petite enfance et votre enfance dans cette ville complètement détruite par la guerre. Et il y a une image dans ce livre, assez magnifique d'ailleurs, où vous êtes avec votre sœur, Marianne, devant une cabane de la plage du Havre. C'est une photo qui a été prise en 1954. Vous êtes comme une sorte de petit ange blond, très frêle. Et je me demande si le fait d'avoir vécu toute cette enfance dans les ruines, au milieu des gravats, ces ruines qui obsèdent et qui tissent aussi un des motifs récurrents de ce dernier livre, n'a pas forgé justement votre habitacle à vous.
Oui, ça c'est
fallait trouver un lieu sûr.
Un lieu... Ah, vous voulez dire par contraste. Un lieu sûr par contraste. Oui, oui. Mais il est possible aussi, comment dire, que c'est un deuil incompréhensible. Je n'ai pas vu la ville debout. Je n'ai pas connu la guerre ni ses horreurs. Je n'ai pas connu la ville debout. Je l'ai vu une ville qui peinait à se reconstruire. Il a fallu 7 ans pour qu'elle se reconstruise. Donc, en effet, des gravats, Mais si bien que même lorsque je reviens au Havre, maintenant construite, j'y crois pas. Ça me paraît faux. Ça me paraît faux. La ville construite me paraît fausse. Il y a un lieu absent. Dans lequel, oui, c'est peut-être il y a plutôt que la solitude, c'est un lieu absent dans lequel il me faut vivre.
Dans L'amour, la mère, il y a une scène où un personnage vit avec exaltation un moment de bonheur absolu. Il est dans une église désaffectée, il est tout en haut de l'église, il fait corps avec son instrument qui s'appelle l'orgue et il n'a besoin de rien ni de personne. Est-ce que ce personnage vous ressemble, Pascal Quignard?
Ah, écoutez, c'est l'organiste. J'ai été organiste à Ancenis. L'organiste, c'est le seul musicien que ceux qui l'écoutent ne voient pas. Il est tout là-haut. Personne ne le voit dans l'église qui résonne du chant qu'il donne. Et j'aime, comment dire, non seulement que l'art soit inadressé, mais comment dire que celui qui l'interprète n'apparaisse même pas.
Merci infiniment Pascal Quignard. Je rappelle que ce dernier livre, L'amour, la mer, vient de paraître chez Gallimard.
Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Change. I feel like I could explode. You make peace, I start a war all on my own. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes. You give me
Et c'est avec Beautiful Life de Michael Kiwanuka que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Jérémy Kaufmann qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer et Marie Clément. Merci Pascal Quignard. Je rappelle que votre dernier livre s'intitule « L'amour, la mer » et qu'il est publié aux éditions Gallimard.